Chronique mutante.
Un magazine queer, punk, anarchiste et féministe.
Tous les samedis de 18h à 19h sur Radio Panique 105.4. Bonsoir, vous écoutez Chronique Mutante, la dernière de l'année, il est 18h et je suis toute seule. Chronique Mutante, l'émission où on passe de une personne à 8 personnes en l'espace d'une semaine, c'est assez incroyable. Mais voilà, c'est toujours un peu bizarre d'être seule quand on n'a pas l'habitude, mais en vrai j'aime bien vous avoir juste pour moi. Et j'ai prévu quelques trucs, pas mal de musique, je vais parler d'un bouquin... Bref, on va s'occuper ensemble, on va partir direct en musique, comme ça, comme d'habitude. On va écouter Doug Feistermans avec Love Split with Blood. Petit bug de jingle, vous écoutez toujours Chronique Mutante et c'est un peu radio fessée ce soir parce que je suis toute seule et c'était pas vraiment tout à fait prévu, donc je suis en train de m'habituer psychologiquement à cette situation. Vous pouvez téléphoner au 02 732 04 50 pour dire à peu près tout et n'importe quoi. Et en attendant, on va commencer cette revue de presse par une bonne nouvelle. Allez, c'est un sujet très dur, mais c'est quand même une bonne nouvelle de fin d'année. Je voulais vous donner des nouvelles de l'affaire d'Adil, puisqu'il y a eu une contre-expertise demandée par sa famille. et qui a apporté des nouvelles données dans cette affaire. Je vous parle de tout ça et vous invite à aussi donner de l'argent à la famille d'Adil pour payer les frais d'avocat et cette contre-expertise qui coûte assez cher, et c'est pas une famille qui a beaucoup d'argent. Je vous donnerai les liens de la cagnotte tout à l'heure, et là je vais vous lire les informations qu'on peut trouver sur le site stut.info. Le 10 avril 2020, donc je vous rappelle déjà les faits, Adil Charot se balade en scooter dans Anderlecht avec un ami. Autour de 21h, une patrouille les voit passer place du Conseil et décide de les suivre. Une minute plus tard, une seconde patrouille croise les deux scooters, fait demi-tour et les prend aussi en chasse. À 21h, les deux pilotes sont séparés. S'ensuit une course-poursuite dans laquelle 8 brigades de police seront mobilisées. Peu après, Adil roule sur le quai de l'Industrie. Il est projeté contre les balustrades du canal après une collision avec une voiture de police banalisée, roulant au sens inverse, sirène et gyrophare éteint. Il décède de l'accident. Au lendemain du décès, la version policière est diffusée dans la presse. Adil se serait déporté lui-même sur la bande où roulait la voiture banalisée. Il serait donc l'unique responsable de l'accident. Le parquet de Bruxelles avait d'ailleurs l'intention de classer l'affaire sans même nommer de juge d'instruction. Des émeutes secouent Anderlecht, la justice décide finalement le 14 avril d'instruire le dossier, c'est-à-dire de lancer une enquête judiciaire. C'est cette enquête qui est sous le feu des critiques depuis la publication d'une contre-expertise il y a quelques jours. Soulignons ici que la justice a refusé d'ordonner une contre-expertise, c'est donc la famille d'Adil qui l'a financée par elle-même. La première expertise automobile, commandée par la justice, conforte la version policière. Elle semble bâclée. Le document compile 14 pages de simples copier-coller d'auditions et 21 pages de photos, selon le site Blast. Fin 2020, le parquet de Bruxelles demande d'ailleurs un non-lieu. L'affaire semble close pour la justice. Pourtant, une longue enquête journalistique de De Morgen, appuyée par des experts automobiles, avait déjà avancé que la voiture de la police était déportée pour percuter volontairement le scooter d'Adil. Une toute nouvelle contre-enquête va, elle aussi, dans ce sens. Cette contre-enquête, lancée par la famille d'Adil et son avocat, est réalisée par le bureau d'expertise Clarence, un bureau accrédité auprès des tribunaux bruxellois. Clarence avance que la première expertise n'a utilisé ni certaines vidéos de caméras de surveillance, ni les enregistrements de la communication entre l'inspecteur qui est entré en collision avec Adil et le dispatching, qui accable l'inspecteur. Selon Clarence, la voiture de l'inspecteur s'est déportée sur la bande d'Adil pour entrer en collision avec son scooter. L'inspecteur a même déclaré « on a essayé de faire un barrage » peu après le choc. Par ailleurs, les caméras de surveillance révèlent que l'inspecteur a effectué plusieurs freinages dans les secondes qui précèdent l'impact. Tous ces éléments amènent à penser qu'il avait un objectif, faire barrage et entrer en collision avec Adil. Les caméras de surveillance montrent aussi que les phares du scooter étaient allumés et qu'il se trouvait au milieu de la chaussée mais sur sa propre bande au moment de l'impact. La version policière est à nouveau mise à mal. Selon la police, Adil était en train de dépasser une camionnette et n'était pas visible. Plusieurs autres éléments de la première expertise et donc de la version policière sont contredits par le rapport de Clarence. D'une part, selon la police, Adil dépassait les 50 km/h, était donc en excès de vitesse. Ceci semble impossible parce que son scooter était bridé pour rouler à un maximum de 45 km/h. La première expertise n'a d'ailleurs pas effectué les tests qui auraient permis de connaître la vitesse réelle du véhicule. D'autre part, contrairement à ce qu'avance la police, le casque d'Adil semblait bien attaché conformément aux règles. L'ami d'Adil affirme que ni lui ni Adil ne savaient qui les suivait au début de la course-poursuite. Les analyses de Clarence montrent en tout cas que la voiture de police qui a entamé la poursuite ne s'est pas identifiée. Elle n'a utilisé ni le gyrophare, ni la sirène, ni le micro pendant la première moitié de son trajet. La version policière affirme qu'Adil avait une conduite agressive et un cyclomoteur en mauvais état, raison pour laquelle la course-poursuite aurait été entamée. Aucune preuve ne permet de confirmer ces éléments. Et pour avoir été la voisine d'Adil, je peux vous dire qu'il passait son temps à bichonner son scooter, donc ça m'étonnerait qu'il était en mauvais état. Quoi qu'il en soit, la police a le devoir de respecter la proportionnalité et l'absolue nécessité en cas de course-poursuite, ce qu'elle n'a pas fait en mobilisant 8 brigades pour poursuivre un jeune homme qui n'a a priori commis aucune infraction. Le rapport de Clarence revient d'ailleurs sur la fait qu'Adil, ou tout du moins son scooter, aurait pu être identifié via sa plaque d'immatriculation. Il aurait été possible de ne pas le poursuivre sur le moment et de le convoquer au poste le lendemain. Un dernier élément accable l'inspecteur qui conduisait la voiture entrée en collision avec Adil. Il a accusé de racisme et de sexisme par plusieurs de ses collègues et aurait été couvert par sa hiérarchie. Au sujet d'Adil, il aurait tenu des propos racistes et se serait vanté d'en avoir sorti un de la rue. Le procureur du roi a requis un non-lieu pour les policiers impliqués dans l'affaire. Il demande donc qu'il n'y ait même pas de procès pour juger leur responsabilité. Ce 9 janvier, le tribunal correctionnel de Bruxelles va répondre à cette demande et estimer s'il y a lieu ou non d'organiser un procès pour homicide volontaire. Le rapport d'expertise Clarins a été commandé par la famille d'Adil. Ce rapport a coûté cher. Et afin de soutenir les coûts de celle-ci, la famille a lancé une cagnotte pour ne pas faire face aux frais toute seule. Elle en appelle à la solidarité. Donc vous pouvez retrouver les informations liées à la cagnotte sur le site de la Fondation Marius Jacob. Donc c'est http://fondationmariusjacob.org/justice-pour-adil. Et c'est tout. Voilà, justice pour Adil, et on continue de vous tenir au courant. Et on va partir en musique, on va écouter un morceau d'Elio Gabal qui s'appelle Les Chiens, je pense qu'il vient à propos.
Petit homme, regarde autour de toi et surtout ne remercie pas tes pères. Petit homme, cours, ne te retourne pas, tu es loin de leur matière. Cours, oublie et reconstruis-toi de presque rien avec ton intuition comme loi. Tous les pièges, ceux de la honte, ceux d'ici.
de la revue de presse.
Anna, la revue de presse.
Queer, 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 queer.
Chronique mutante.
Et on commence cette revue de presse LGBT en Thaïlande, où les députés ont donné jeudi dernier leur accord initial à la légalisation des unions entre personnes de même sexe, ouvrant la voie à l'égalité des droits en matière de mariage dans le royaume. Le texte, voté par 360 voix contre 10, doit encore franchir plusieurs étapes avant de devenir loi, mais s'il est adopté, la Thaïlande sera le premier pays d'Asie du Sud-Est à reconnaître le mariage entre personnes du même sexe. Ce changement permettrait à tous les Thaïlandais et Thaïlandaises de se marier sans restriction de sexe ou de genre et leur conférer des droits d'adoption et d'héritage. On part au Vatican qui a officiellement autorisé lundi dernier la bénédiction des couples de même sexe à condition qu'elle soit effectuée en dehors des rituels liturgiques. Une première sur cette question qui cristallise les tensions au sein de l'Église catholique. Approuvé par le pape François, le document du puissant dicaster, alors le dicaster apparemment c'est une sorte de ministère, donc le ministère pour la doctrine de la foi, ouvre la voie à la bénédiction par des prêtres de couples irréguliers aux yeux de l'Église, qui inclut donc les divorces, les divorcés remariés et les personnes non mariées. Cette bénédiction, je cite, ne sera jamais accomplie en même temps que les rites civils d'union, ni même en relation avec eux, précisons-t-on donc en rappelant que le sacrement du mariage reste lui exclusivement réservé aux couples hétérosexuels. Généralement effectuée par un prêtre, la bénédiction consiste à invoquer la bienveillance divine sur une personne ou une assemblée. Si elle considère, donc l'Église, si elle considère les relations homosexuelles comme un péché, c'est la première fois qu'elle ouvre la voie aussi clairement à la bénédiction des couples de même sexe. Mais c'est un sujet qui suscite une vive opposition de sa frange conservatrice, notamment aux États-Unis, et je pense pas que. Malgré la non-reconnaissance du Saint-Siège, la bénédiction des couples de même sexe était toutefois déjà pratiquée jusqu'ici par certains prêtres, notamment en Belgique, en Allemagne, y compris à l'Église. Je me suis retrouvée, désolée. Et on part en Ouganda où la Cour constitutionnelle a commencé lundi dernier l'examen d'un premier recours contre la loi anti-homosexualité qui a été votée en mai dernier et qui a suscité l'indignation des organisations de défense des droits humains de l'ONU et entraîné des sanctions américaines. Je crois qu'on en a parlé plein de fois. Donc voilà, il y a un examen en cours actuellement. On va partir en musique. Je vais vous quitter pour deux chansons avec deux poétesses et slameuses magnifiques. D'abord avec Kate Tempest, après avec Mormoza. Les deux sont en featuring. Kate Tempest, c'est un featuring avec Liane Lahavas. C'est la chanson No Prizes.
No prizes. Take your shot for the love of the game. I used to make plans, now I make decisions. I'd always admired his nerve, as sure as the crown on his shirt. One hand in his waistband, he tells me to serve. Credit ratings, savings, loans, down payments towards his investments. What can I tell you, he says. When you have kids, it kind of shifts your perspectives. If I could do it all again, no question. I could list 10 things right now that I should have done different. Where does that get me? He blows out his smoke. The game's not done yet. He zips up his coat. We stand at the lights before crossing the road. He says as long as there's life, there's still so far to go.
I just wanna keep climbing.
Suit, sitting on the bass amp, strapping a zoop. I'm telling you, it's mad. I read one interview with this soldier in Iran. It's a government cover-up. She's looking for the lighter, but the lighter's in her hand. I'm just really trying to make a couple grand. She plays with the chain round her neck, nods deeply. Not even in this music thing, it's beneath me. I'll start my own company, run my own business, print my own money. I'll serve my own interests, I'm telling you. Knowledge is key. All my life, people took my ideas, made their names off of me, but trust this. The more I look, the more I see. There's so much more I'm going to be.
I just wanna keep climbing, and I don't know why. I
seen nothing but dead ends and blockages and stop clocks, misread prophecies and misheard promises. They've got to keep three jobs ticking. They can't get a minute, but they won't be defeated. They've got to live. What are your dreams when they become ghosts in your ears, telling you things you just don't want to hear, like you're too late, you missed your chance. The last thing they want is to be bitter, like they knew a few to be when they were younger, and they swore, never me, never that. But the time that's behind them, they can't get it back. I used to be joyful, they tell me, a real free spirit. I thought music would protect me. I used to sing in all these bars and I used to busk, but never caught a break. My lucky day never showed up. I never made it to the lights, and now it's like my best days have gone by, and I am scared that it's all too late. Is it all too late? They walk fast and I can't keep pace. They turn back, I watch the past cross their face, and they say if there's still time on the clock, there's still choices to make.
Gotta get away. Black flight, gotta get away.
Black flight, gotta get away. Black flight, gotta get away.
Black flight, gotta get away. Black flight, gotta get away.
Black flight, black wings, black light, black dreams, dark matter, chaos theory, the invention of the zero. Mathematical compromise, time-served, carceral capitalism, maroon colonies on Martian mountaintops, pyramid schemes, spiral dynamics, chakra centers and the octave scale, seven notes, seven holes, 7 days, seven fears, mythical landscapes, niggas in black capes draped in eternity, suddenly turned to see my own self looking at me, approach the mirror, delete the error, shift gears, light years, mineral magnetism, used to destroy systems.
Black flight, gotta get away. Black flight, gotta get away. Black flight, gotta get away.
Black flight, gotta get away.
Black flight, gotta get away.
Black flight, gotta get away.
Black flight, gotta get away.
Black flight, gotta get away.
Black flight.
Et vous s'écouter cette dernière chronique mutante de l'année où je suis un peu toute seule et c'était pas prévu, donc je vais devoir quitter un peu plus tôt aujourd'hui parce que j'ai pas prévu assez de musique. Mais j'avais quand même prévu encore quelque chose, c'est de vous parler d'un livre que j'ai lu cette semaine qui s'appelle Retour à Reims et qui a été écrit par Didier Héribon. C'est un essai autobiographique et qui est paru en 2009. Donc le pitch, c'est après la mort de son père, Didier Héribon retourne à Reims, sa ville natale, et retrouve son milieu d'origine avec lequel il avait plus ou moins rompu 30 ans auparavant. Il décide alors de se plonger dans son passé, de retracer l'histoire de sa famille ainsi que son propre parcours de transfuge de classe. Donc il est né à Reims en 1953 dans un milieu pauvre, d'un père ouvrier, d'une mère femme de ménage puis ouvrière. Et dans son récit, il décrit sa famille comme marquée, fragilisée, à l'instar de nombreuses autres familles rémoises, par la guerre. Je me suis perdue. Je sais pas comment je fais. Par les deux guerres mondiales, voilà. Qui ont énormément affecté cette partie-là de la France. Son père et l'environnement social dans lequel il vit sont homophobes et il décrit sa mère comme raciste. Bon, toute sa famille l'est, mais sa mère particulièrement. Il est le second d'une fratrie de 4 garçons et à la différence de ses frères, c'est le seul à suivre des études après l'âge obligatoire et des études au secondaire dans un lycée, puis universitaire à Reims, puis Paris. Le parcours de ses frères est pour lui emblématique de la sélection sociale qu'opère le système scolaire à l'égard des enfants d'ouvriers. Durant son adolescence, il milite un temps pour une organisation trotskiste qu'il abandonne ensuite, jugeant alors que la politisation des questions sexuelles passe par une mise à distance du marxisme qui ne considérait comme politique que ce qui relevait de la nomination de classe. On reviendra, donc vous avez compris, Didier Héribon est gay. Sinon, j'en parlerai pas. Il restera cependant toujours attaché à l'idée qu'il existe bel et bien une classe sociale dominée dont il est issu et que celle-ci doit lutter pour son émancipation. Donc il fait des études de philosophie et après avoir réussi le concours de l'Institut de préparation aux enseignements de second degré, qui lui permet d'avoir une bourse pendant 3 ans, il raconte en fait la manière détaillée d'un retour à Reims où il échoue au concours de l'agrégation et du CAPES, donc les concours qui permettent d'être enseignant. Et ce qui l'amènera à changer d'orientation professionnelle. Ce qu'il explique, c'est qu'en fait, il n'avait aucune chance de l'avoir parce que quand on n'a pas été dans le milieu bourgeois et qu'on n'a pas eu accès à une certaine culture, à une certaine érudition depuis le plus jeune âge, c'est quand même très très compliqué de passer l'agrégation. Et il commence sa carrière comme critique littéraire à Libération de 1979 à 83, puis à partir de 84 dans son autre journal, jusqu'au milieu des années 90, au Nouvel Observateur, journal qui dit ne pas aimer, mais il y a été parce que, bon, voilà, il avait besoin d'argent. Et il a quitté Libération au moment où il estime que c'était en train de devenir un journal de gauche bien pensante. C'est avec mes mots, je dis ça. Et c'est dans le cadre de ce métier de journaliste qu'il rencontre des intellectuels tels que Michel Foucault et Pierre Bourdieu, avec lesquels il se lie d'amitié. Et à la suite de l'apparition de sa biographie de Michel Foucault et de la traduction de celle-ci dans de nombreuses langues, il entame une carrière universitaire aux États-Unis à la fin des années 90, puis en France dans les années 2000. Donc c'est un vrai revirement de situation, parce que le type rêvait d'être professeur agrégé, donc plutôt d'université ou de lycée, et finalement il a pas pu faire ça, mais la vie l'a amené à faire ça de manière tout à fait grandiose. Il a écrit plusieurs livres et il a quand même été assez connu. Il écrit des livres de type genre La question gay. Moi, je connaissais pas du tout. Mais bon, voilà, plein de réflexions sociologiques sur c'est quoi être gay. Bon, voilà, j'ai pas lu ce livre, donc je vais pas pouvoir vous en dire plus. Moi, je connais Retour à Reims parce que c'est un livre qui a beaucoup marqué Édouard Louis, que j'ai lu En finir avec Eddie Bellegueule, et qui est un livre qui m'a beaucoup touchée. J'ai lu tous les livres d'Édouard Louis. En fait, tous les livres d'Édouard Louis m'ont beaucoup touchée, mais particulièrement En finir avec Eddie Bellegueule, parce que ça raconte un peu la même chose que Retour à Reims. D'ailleurs, Édouard Louis dit quand il a lu Retour à Reims, il a cru qu'il parlait de sa vie, et c'est vrai que c'est assez hallucinant. Enfin, à part qu'ils ont quand même deux personnalités différentes, mais c'est quand même l'histoire d'un gamin gay qui est traité de PD sans arrêt, qui est dans une famille de prolos, où il est complètement déconnecté de sa famille sur bien des aspects, avec une mère qui aurait pu faire un peu des études ou quoi que ce soit, mais la vie en a fait autrement parce que la vie est compliquée quand on vient de sa classe sociale, avec un père qui est violent, qui se bourre la gueule, qui pète tout, une mère donc qui a mis ses rêves dans un mouchoir, quoi, et des frères et sœurs pour Édouard Louis qui font des métiers, continuent à faire des métiers qui sont de la classe ouvrière et qui gagnent assez peu, très mal leur vie, quoi. Donc Donc on est vraiment dans quelque chose de très commun. Et voilà, je sais que c'est En finir avec Eddie Balguel, un livre très touchant. Moi, j'ai énormément pleuré en lisant ce livre. Ce qui n'est pas le cas de Retour à Reims, parce que c'est quand même plus de l'analyse et c'est moins écrit de manière à moins vous toucher, quoi. Mais quand on vient de province et d'une certaine classe sociale, et ces livres-là, ils sont vraiment super importants parce qu'ils mettent des mots sur des choses qu'on a pu ressentir et avec lesquelles on a eu du mal à avancer. Et donc le thème principal de Retour à Reims, c'est la hiérarchisation sociale et la reproduction sociale qu'elle implique. C'est-à-dire que le fait que les classes dominantes, mais plus encore l'ensemble de la société, entretiennent la hiérarchie entre groupes sociaux et sa perpétuation au fil des générations. Donc ça, c'est vrai dans les années 50 et 60, mais c'est toujours vrai aujourd'hui, évidemment. Et depuis sa position de transfuge de classe, Héribon cherche donc à montrer l'ensemble des mécanismes de reproduction sociale qui ont rendu son parcours difficile. Donc c'est ça qui c'est aussi de l'analyse, parce qu'il est vraiment en train de décortiquer ces éléments-là. Et son parcours individuel fait aussi l'objet d'analyses sociales, notamment sur la construction de l'identité, ici surtout l'identité sociale, mais qu'Héribon ne peut séparer de l'identité sexuelle. Donc la construction est particulièrement corrélée dans son parcours de transclasse homosexuelle. Et donc il accorde une place importante à la question de la honte, qu'elle soit sociale ou sexuelle, qui est pour Héribon un phénomène social déterminant. Il ressent ainsi une honte liée à la position subalterne de sa famille, par sa culture, ses métiers, etc. Et aussi une honte liée à son homosexualité. Et celle-ci est particulièrement importante dans un milieu très homophobe. Héribon dit alors être un produit de l'injure, un fils de la honte. Et construit par les insultes répétées perpétuellement du fait de son homosexualité. Il a les parties de son livre concernant la honte sont vraiment super intéressantes. Et ce récit est aussi l'occasion pour l'auteur de faire une critique des choix par la gauche française dans les années 80, après le recul du Parti communiste français, qui était une institution essentielle dans le milieu ouvrier. Et Héribon tente par là d'expliquer le basculement du vote ouvrier du PCF vers le FN, donc le Front National, le parti d'extrême droite, notamment à travers l'exemple de sa famille. Et il offre également une critique des milieux trotskistes auxquels il appartenait, notamment à travers l'homophobie latente qui pouvait y exister. Et il analyse comment le marxisme, en ne tenant pas compte des minorités et de leurs oppressions, en mettant en avant la lutte des classes avant tout, c'est mis un couteau dans le pied. En fait, c'est auto-détruit avec ce discours un peu masculiniste assez arriéré. A perdu en fait une lutte et cette époque qu'il a vécue où il avait une sorte de construction revendicative entre le milieu ouvrier prolétaire contre le milieu bourgeois, qui est, je pense, quelque chose d'assez sain comme construction politique, a été remplacé par les Français contre les étrangers, par le FN et pas que. Et c'est le discours dans lequel on est actuellement. Et il dénonce tout ça, Didier Héribon, et c'est assez intéressant. Je vous encourage à lire ce livre. J'ai des petits extraits de la fin du livre qui parlent justement de ces passages-là, mais il faut juste que je retrouve un peu. Bref, vous avez compris que je trouve pas mes mots là. Donc on va écouter une chanson et puis je vous lis les petits extras après, comme ça j'ai le temps un peu de préparer ça. Et on va écouter un truc un peu solaire pour cette fin d'année. On va écouter Pongo avec Comessa.
Genuína, não falho. 10 anos depois eu comando. Yeah. 10 anos depois eu comando. Começa, começa, começa que eu tá cabo. Começa, começa, começa que eu tá cabo.
Chronique mutante. Chronique mutante.
Et de retour, je vous parlais à l'instant du livre Retour à Reims de Didier Ribon. Je vous disais que j'allais vous lire des petits extraits. Et voilà, je les ai retrouvés. Je pourrais écrire en m'inspirant de la prose métaphorique et fleurie de Genet, qu'il arrive un moment où l'on transmue les crachats en rose, les attaques verbales en une guirlande de fleurs, en rayons de lumière. Bref, un moment où la honte se transforme en orgueil. Et cet orgueil est politique de part en part, puisqu'il défie les mécanismes les plus profonds de la normalité, de la normativité. On ne reformule donc pas ce qu'on est à partir de rien. On accomplit un travail lent et patient pour façonner son identité à partir de celle qui nous a été imposée par l'ordre social. C'est pourquoi on ne s'affranchit jamais de l'injure ni de la honte, d'autant que le monde nous lance à chaque instant des rappels à l'ordre qui réactivent les sentiments qu'on aimerait oublier, qu'on croit parfois avoir oubliés. Capitale fut donc pour moi la phrase de Sartre dans son livre sur Genet. L'important n'est pas ce qu'on fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous. Elle constitue vite le principe de mon existence, le principe d'une assaise, d'un travail de soi sur soi. Cette phrase prit cependant dans ma vie un double sens et valut aussi bien, mais de manière contradictoire, dans le domaine sexuel que dans le domaine social. En m'appropriant et en revendiquant mon être sexuel injurié dans le premier cas, en m'arrachant à ma condition sociale d'origine dans le second, je pourrais dire, d'un côté, en devenant ce que j'étais et, de l'autre, en rejetant ce que j'aurais dû être, pour moi, les deux mouvements allèrent de pair. Au fond, j'étais marquée par deux verdicts sociaux, un verdict de classe et un verdict sexuel. On n'échappe jamais aux sentences ainsi rendues. Et je porte en moi la marque de l'un et de l'autre. Mais parce qu'ils entrèrent en conflit l'un avec l'autre à un moment de ma vie, je dus me façonner moi-même en jouant de l'un contre l'autre. Voilà. Ben voilà, c'est un livre que je conseille à toute personne qui s'intéresse à l'intersection entre classe sociale et homosexualité. Et je crois qu'on n'en parle plus assez. En fait, il y a vraiment une période au XXe siècle, on parlait énormément de classe sociale. Et je crois qu'aujourd'hui, notamment dans la communauté queer, on en parle vraiment très peu. Et ce qui compte, on parle beaucoup d'autres oppressions et c'est très bien, mais je pense qu'on parle pas assez de celle-là qui est très importante parce qu'elle... Parce qu'elle est une autoroute toute tracée sur la vie qu'on va prendre, quelle que soit notre orientation sexuelle, notre couleur de peau ou notre genre. Et c'est quand même important de continuer à questionner et continuer à échanger sur ces questions-là et surtout à être transparent, ne pas avoir honte d'être de classe prolétaire et ne pas avoir honte non plus d'être bourgeois et de l'assumer. Je pense que c'est un problème dans les milieux alternatifs et queer d'avoir honte dans ces milieux-là d'être bourgeois, de ne pas l'assumer, mais après de toucher des héritages et de finir sa vie bien tranquille quand d'autres personnes vont galérer toute sa vie et sont parfois jugées par ces militants-là parce qu'ils font le choix d'un travail salarié ou de mettre de l'argent de côté. Je pense qu'on n'est pas égaux et c'est important... C'est important de le garder en tête, tout ça. Bref, je finis donc un peu cette année, cette leçon, cette émission toute seule en donnant de leçon sur l'oppression classiste. Et voilà, je vais passer une dernière chanson et puis je vous dis au revoir. J'embrasse bien fort le docteur Amor qui nous écoute quelque part en Bretagne. Et on va écouter une chanson un peu exclue comme ça, parce que franchement ça m'étonne que vous puissiez la trouver quelque part. C'est la chanson Bordeaux 2010 de l'artiste Né Sous X. Et à la semaine prochaine.
Chronique Mutante, une émission soutenue par la Fédération Schlagonie Bruxelles.